Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. D'abord et avant tout, je veux, au nom des camarades de lutte ouvrière, rendre hommage aux ouvriers de l'usine PSA d'Aulnay, qui sont en grève. Qui sont en grève depuis maintenant 4 semaines pour ne pas être mis à la porte comme des malpropres et pour avoir la garantie d'un CDI. Ils se battent contre un patron de combat qui ne recule devant aucune provocation, devant aucun mensonge, et qui a mis en œuvre une politique de répression systématique. La direction a d'ores et déjà engagé des sanctions en vue de licenciement vis-à-vis de 6 travailleurs. Et je sais d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'un de ces travailleurs, mis à pied, est ici et va partager le banquet avec nous, et je tiens à le saluer particulièrement. Alors la direction de PSA a tout fait pour casser la grève. Le lock-out, les vigiles, les intérimaires censés remplacer les grévistes. Elle a tout fait, mais à ce jour, la grève tient bon. Certains ont voulu discréditer cette grève parce qu'elle est minoritaire. Oui, la grève est minoritaire, mais c'est une grève qui emporte la sympathie et le soutien actif ou passif de bien d'autres travailleurs dans l'usine. Les grévistes disent en fait tout haut ce que beaucoup d'autres pensent tout bas. Et la semaine dernière, ce soutien s'est traduit de la meilleure façon possible avec l'entrée dans la grève de nouveaux ouvriers. Des syndicalistes à la botte de la direction se sont plaints des intimidations et du climat soi-disant tendu à Aulnay. La porte-parole du syndicat Maison a même dit « Si cela continue, il y aura peut-être un mort ». Eh bien, elle ne pouvait pas si bien dire. Parce que oui, cette semaine, il y a bien eu un mort dans le pays. C'était un chômeur en fin de droit, désespéré, qui s'est immolé devant les portes de Pôle emploi à Nantes. Eh bien, si les ouvriers d'Aulnay se battent aujourd'hui, c'est justement pour ne pas aller à Pôle emploi et c'est justement pour sauver leur vie. Si je veux rendre hommage à cette grève, c'est aussi parce qu'en se battant pour leur emploi, pour leur salaire, les travailleurs de PSA Aulnay se battent pour une cause qui nous concerne tous, combattre les licenciements. Se battre pour l'emploi n'a rien d'un objectif égoïste ou corporatiste. Tous les travailleurs y ont intérêt. Car nous sommes tous, directement ou indirectement, victimes du chômage. Le chômage est un drame pour les chômeurs, bien sûr, mais il pèse aussi sur tous ceux qui ont un emploi. Qui ne s'est pas entendu dire par son patron, si ça ne te va pas, il y en a 10 qui attendent derrière la porte. Et plus largement, le chômage est un fléau pour toute la société. Quel peut être l'avenir d'une société qui condamne 25% de sa jeunesse à l'inactivité, 50% dans certaines cités de Seine-Saint-Denis ou même d'Argenteuil? Est-ce qu'une société qui condamne les uns à s'épuiser au travail pendant que les autres en cherchent un désespérément peut tourner rond? Et une société où l'on condamne des millions de personnes au petit boulot, à la misère, pendant qu'une infime minorité nage dans les millions, ne peut que secréter toujours plus de violence? Le chômage, les inégalités, l'exploitation forment le terreau de l'individualisme, de la délinquance, de l'insécurité, du racisme. Voilà toutes les conséquences du chômage. Et personne parmi les classes populaires ne peut y échapper, pas même ceux qui ont encore un bon emploi et un bon salaire. Alors oui, le combat des travailleurs de Peugeot, mais aussi ceux de Renault, de Goodyear et de tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le chômage ou pour leur salaire est un combat légitime, un combat qui va dans le sens des intérêts de tous et un combat qui doit aussi devenir le nôtre. Les grévistes de PSA, comme ceux de Goodyear, ont été accusés d'être jusqu'au boutistes et irresponsables. À entendre certains, on pourrait croire que dans ces deux entreprises, c'est même la CGT qui a décidé de fermer l'usine. On voit que la propagande patronale est sans borne. Mais l'enjeu de cette propagande dépasse les travailleurs de PSA ou de Goodyear. Il s'agit en fait d'un plan d'attaque bien plus général. Il s'agit d'un véritable plan de guerre contre tous les travailleurs. Au quotidien, il faut se battre pour ne pas faire d'heures supplémentaires gratuitement. Il faut se battre contre la réduction des pauses, contre l'augmentation de la charge de travail. Dans les entreprises, la lutte de classe est permanente et elle n'a rien de nouveau. Mais avec la crise, les patrons sont passés à la vitesse supérieure. Avec la crise, ils sont de plus en plus agressifs parce que les profits n'augmentent plus aussi vite et parce que, pour certains, le gâteau se réduit. De partout, dans toutes les entreprises, le patronat veut revenir sur les conditions de travail, il veut revenir sur les salaires, sur la durée de travail, sur la flexibilité, sur les effectifs. De partout, il est question d'accords de compétitivité, d'accords de performance. Et ces sacrifices, eh bien, ils vont être imposés d'autant plus systématiquement que le gouvernement a décidé de transposer dans une loi les accords de flexibilité que le MEDEF et la CFDT, la CGC et la CFTC viennent de signer. Ce sont des accords honteux et c'est un projet de loi qui est honteux. Avec cette loi, le patronat, qui n'avait déjà pas beaucoup de contraintes, en aura encore moins. Il pourra licencier plus vite, moins cher, il pourra baisser le temps de travail et les salaires en fonction de ses affaires. Il pourra imposer la mobilité. S'il n'y a pas de travail sur un site, les ouvriers devront faire 20, 50 kilomètres pour aller travailler sur un autre. Ce sont des accords qui vont généraliser et légaliser le chantage patronal. Parce que ces accords ne laisseront aux travailleurs que le choix entre travailler plus pour gagner moins ou être licencié. Avec Renault, on a un exemple de ce que cela pourrait donner très concrètement. La direction de Renault demande aux salariés de signer un accord qui fera perdre aux travailleurs jusqu'à 21 jours de congé, qui leur imposera de faire, en fonction des besoins de Renault, 1h30 de route, aller et retour, et des accords qui pourront aussi baisser les salaires. En contrepartie, l'entreprise s'engage à ce qu'il n'y ait pas de plan social, ce qui ne veut même pas dire qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois, parce que dans le même temps, Renault prévoit de supprimer quelque 8000 postes, rien que par les départs en retraite et autres départs volontaires. Montebourg a osé affirmer que les demandes de Renault étaient modérées et qu'il fallait que les syndicats signent. Comme si faire matin et soir des dizaines de kilomètres pour travailler n'était pas un recul grave. Comme si perdre 100, 200, 300 euros sur des petits salaires n'était pas une catastrophe. Et à ce propos, je voudrais revenir sur le sacrifice que Carlos Ghosn, le PDG de Renault, a soi-disant fait sur son salaire. C'est un marché de dupes, un marché de dupes indécent, de la fumisterie. Ce monsieur ne parle même pas de baisser son salaire. Il le parle de geler, c'est-à-dire de reporter à plus tard 30% de son salaire variable. Et puis de toute façon, ce monsieur avec 13 millions d'euros par an pourrait amputer son salaire de 90% qui lui en resterait encore 2 300 000. Alors ce n'est sûrement pas parce que ce monsieur a fait un geste symbolique que les travailleurs ont à accepter qu'on leur baisse leur salaire à eux. Tous les patrons font la morale aux travailleurs en disant que c'est la crise et qu'il faut s'adapter. S'adapter, c'est un mot qui est bien gentil. Mais ce que le patronat veut en réalité, c'est baisser les salaires. Alors que bien des travailleurs sont dans le rouge tous les mois, même quand le salaire tombe entièrement. Et puis le loyer, le prix de l'essence, les mutuelles ne diminuent pas, eux. Toutes les factures continuent de tomber. Alors la question pour des millions de travailleurs, c'est de joindre les deux bouts, c'est de se chauffer correctement, de se nourrir normalement, de survivre. Alors non, il n'est pas question de céder à quelque chantage que ce soit. C'est aux plus riches, aux gros actionnaires et aux grands groupes de s'adapter à la période de crise. Et eux, ils le peuvent, car ils tirent très bien leur épingle du jeu. Les premiers résultats des entreprises du CAC 40 ont été annoncés la semaine dernière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous ces grands groupes sont très loin de la faillite. Total, l'entreprise Total jubile avec plus de 12 milliards de profits, plus 8%. L'Oréal avec 3 milliards, Michelin avec 2,4 milliards. Le licencieur Goodyear gagne également de l'argent, comme Renault, qui n'a pas réussi à dissimuler ses 1,7 milliard de profits. Quant à PSA et à Arcelor, s'ils ont pu annoncer des pertes catastrophiques pour justifier leur fermeture d'usine, c'est après avoir trafiqué leurs comptes. Sur les 5 milliards de pertes que déclare PSA, il y a 4,7 milliards de dépréciation d'actifs. Un simple jeu comptable, comme l'explique lui-même le directeur financier de PSA. Et il explique à tous les actionnaires qu'il ne faut sûrement pas qu'ils s'inquiètent. Avec la même manipulation comptable, ArcelorMittal se paye le culot d'afficher une perte nette de 3,7 milliards alors que son activité productive lui a rapporté 2 milliards. Alors qu'il se félicite ou qu'il fasse semblant de pleurer, les uns comme les autres ont de quoi voir venir. Leurs fortunes sont bien gardées. Les descendants de Peugeot, ceux de Bettencourt, Pinot, Michelin ont de beaux jours devant eux. Pas les travailleurs qu'ils écrasent avec des salaires toujours plus bas et pas les travailleurs qu'ils condamnent au chômage. Le patronat, mais aussi le gouvernement et même certains dirigeants des confédérations syndicales nous rabâchent qu'il faut accepter des sacrifices pour sauver les emplois. Mais on l'a vu avec Continental. Les travailleurs de l'usine de Clairoy, qui avaient accepté des reculs sans précédent, ont tous été licenciés un an après. Et aujourd'hui, Continental est l'une des firmes les plus profitables d'Allemagne. Mais la grande majorité des travailleurs de l'usine de Clairoy qui ont été licenciés sont restés, eux, sur le carreau. Alors non, les sacrifices que le patronat veut imposer aux travailleurs ne serviront pas à sauver les emplois. Ils font partie d'un plan de guerre qui consiste à grossir les profits, à gagner en rentabilité, à aggraver l'exploitation. Et dans ce plan de guerre du patronat contre les travailleurs, le gouvernement est du côté patronal. Il est prêt à tout justifier. Et il est prêt aussi, avec cette loi, à lui donner de nouvelles armes. Alors non, ce ne sont pas des amis que nous avons au gouvernement. Ce sont des ennemis. Il n'y a pas de quoi se décourager, il n'y a pas de quoi baisser les bras, mais il faut regarder la réalité en face. Ces gens-là ne sont pas de notre côté. Il y a 10 mois, près de 10 mois, l'écrasante majorité des travailleurs a voulu se débarrasser de Sarkozy. Ce n'est pas que Hollande soulevait l'enthousiasme. C'est simplement que beaucoup de travailleurs pensaient qu'avec Hollande, cela ne pouvait pas être pire. Eh bien si, avec Hollande, c'est encore pire. Oh, cela ne tient pas à sa personne, cela ne tient pas à son caractère, et même pas à sa politique, qui est ni pire ni meilleure que Sarkozy, puisque de toute façon, ces deux politiques se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Non, cela tient tout simplement au contexte, cela tient à la crise et au fait que dans cette période, le patronat est de plus en plus agressif. Le patronat ne prenait déjà pas beaucoup de gants sous Sarkozy, mais avec Hollande, il attaque sans aucune retenue. Et le gouvernement, tout socialiste qu'il prétend être, exécute en bon serviteur. Le patronat décide, ordonne, et le gouvernement hollandéro obéit. Souvenez-vous, comment le gouvernement s'est couché en quelques jours face à l'affronte des petits patrons de l'Internet qui s'étaient baptisés les pigeons. Souvenez-vous comment le gouvernement s'est aplati devant Mittal. Et puis en 10 mois, le gouvernement dirigé par le Parti socialiste n'a pas été capable de faire le moindre petit geste favorable aux travailleurs. Il n'a même pas été capable d'augmenter le SMIC, parce que augmenter le SMIC de 0,3%, c'est quand même pas une augmentation, ça. Ça ressemble davantage à une provocation. Et puis, s'il y a un domaine où il était facile pour le gouvernement de faire un geste pour les travailleurs, c'est celui de la fonction publique. Parce que là, c'est le gouvernement qui est le patron. Et dans le domaine de la fonction publique, il y a de quoi faire. Parce qu'en matière de petits salaires, de temps partiel et de précarité, on peut dire que l'État en connaît un rayon. Cela fait maintenant 3 ans que les salaires de la fonction publique n'ont pas été revalorisés. Eh bien, sur ce terrain, comme sur les autres, tout continue comme avant. Le gel des salaires, le manque de personnel, les non-remplacements, la précarité, il n'y a pas l'ombre d'un changement. La droite a à son actif bien des ignominies. Par exemple, la taxation des indemnités des accidents du travail, le forfait de 35 € qu'il faut payer pour aller en justice, pour aller au prud'homme, le jour de carence dans la fonction publique. Je ne vais pas en faire la liste, elle serait trop longue. Eh bien, non seulement le gouvernement Hollande ne revient sur aucun de ces sales coups de Sarkozy, mais il est en train de préparer les siens. Parce qu'avec les 60 milliards de coupes budgétaires qu'il a annoncées et qui sont prévues sur les 5 prochaines années, eh bien, il y aura, oui, des attaques contre les travailleurs. Combien de suppressions d'emplois seront encore programmées dans les hôpitaux ? Combien de communes manqueront d'argent pour restaurer les écoles ou pour aider les familles à payer la cantine ? Combien de départements réduiront leurs aides sociales ? Combien d'associations seront-elles sacrifiées parce qu'elles n'auront plus les mêmes subventions ? Et à cela s'ajoutent les hausses d'impôts, les hausses de taxes que tout le monde paiera. Quant à la TVA, que Hollande avait promis de ne pas augmenter, eh bien elle augmentera en 2014. Oh, les riches se plaignent beaucoup d'avoir à payer plus d'impôts, et on n'entend qu'eux. Mais avec l'air de ne pas y toucher, le gouvernement fait les poches des classes populaires aussi bien que ne le faisait Sarkozy. Alors oui, le style a changé avec Hollande. Il y a moins d'arrogance, mais il y a plus d'hypocrisie, plus de mensonges et plus de tromperies. Eh bien, ce que j'ai à dire aux travailleurs et aux militants, c'est ne vous laissez pas désarmer par ce gouvernement qui se dit de gauche, mais qui mène une politique de droite. Ce n'est pas parce que le Parti socialiste est au pouvoir qu'il faut se laisser faire. Encore une fois, plus nous nous enfoncerons dans la crise et plus le patronat et le gouvernement attaqueront les conditions de travail et les conditions de vie des travailleurs. Plus la guerre de classe sera violente. Ce qui se passe en Grèce ou en Espagne doit nous servir d'avertissement. Les dirigeants sont prêts à faire reculer les travailleurs des générations en arrière. Ils n'ont pas de limites. Les seules limites seront celles que les travailleurs leur mettront. Alors beaucoup se demandent pourquoi les travailleurs ne sont pas encore entrés en lutte. Pourquoi il n'y a pas de mobilisation massive? Les raisons ne manquent pas. Bien des travailleurs ont été démoralisés par les trahisons successives de la gauche gouvernementale, de Mitterrand en passant par Jospin, parce qu'à chaque fois qu'elle a gouverné, elle a mené, comme Hollande, une politique anti-ouvrière. Alors beaucoup sont déboussolés et finissent par tourner le dos à la politique, y compris aux syndicats, en se disant que gauche, droite, c'est tous les mêmes. Et comment ne pas parler ici de la politique des confédérations syndicales? Je parle des directions centrales des appareils syndicaux, pas des militants syndicalistes qui se démènent comme ils peuvent sur le terrain. En signant les accords de flexibilité et en les justifiant avec les mêmes mots, avec les mêmes arguments que le MEDEF, la CFDT, la CGC et la CFTC, on fait la politique du patronat. Cela fait bien longtemps que ces dirigeants syndicaux ne comptent plus sur les luttes pour faire avancer les intérêts des travailleurs. Mais en cautionnant les attaques patronales, en cosignant des reculs honteux, ils ont bradé jusqu'à la dignité des travailleurs. Parce que c'est une chose de ne pas parvenir à faire reculer le patronat, mais entrer dans son jeu, signer des reculs historiques en faisant croire aux travailleurs que c'est du donnant-donnant, que les efforts sont partagés, c'est une trahison. Une trahison matérielle, mais aussi une trahison morale et une trahison politique. Quant aux dirigeants de la CGT et de FO, s'ils n'ont pas signé ces accords, ils ont quand même participé à toutes les négociations. Ils ont cautionné cette mascarade du dialogue social. Et tout cela dans une période où chacun sait que le patronat ne fera pas de cadeaux, où chacun sait qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le rapport de force. Et aujourd'hui, si la CGT et Force ouvrière s'opposent au projet de loi, que font-ils pour préparer les travailleurs aux luttes nécessaires? Nous savons, parce que nous sommes des militants, qu'on ne peut pas déclencher des luttes en appuyant sur un bouton. Ça, c'est vrai. Mais cela n'empêche pas de les préparer, d'en défendre la nécessité et la perspective. On peut toujours faire de la propagande, contrer et dénoncer les mensonges patronaux. On peut préparer les travailleurs politiquement et moralement à s'opposer aux attaques patronales. Les directions syndicales devraient, et elles pourraient le faire. Au lieu de cela, les travailleurs sont laissés isolés, livrés à eux-mêmes, et ils se battent comme ils le peuvent. Car si cela fait des années qu'il n'y a pas eu de grande lutte collective, il y a toujours eu, ici et là, des luttes, des grèves, des manifestations. Ce sont des luttes d'autant plus difficiles qu'elles sont isolées, menées entreprise par entreprise. Ce sont des luttes où souvent les travailleurs se battent dos au mur. Mais ils se battent quand même. Et ils se battent parce qu'ils veulent dire non, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que s'il y a une chose qu'ils peuvent préserver, c'est justement leur conscience et leur dignité de classe. Alors ces luttes, qui ne sont pas forcément toutes victorieuses, eh bien elles sont très précieuses. Et elles sont même indispensables, car elles sont le gage de voir demain d'autres travailleurs se lever et rendre les coups. Oui, camarades, nous en sommes certains. Les provocations et les coups que distribuent les dirigeants de cette société capitaliste finiront par faire exploser la colère du monde du travail. Et ce jour-là, nous devrons mettre en avant des objectifs qui en valent la peine, des objectifs qui feront vraiment mal au patronat, qui limiteront son pouvoir de nuisance et qui nous permettront, si nous les atteignons, de préserver enfin notre niveau de vie contre leurs attaques. Nous devrons imposer l'interdiction des licenciements, parce que dans cette période de crise, licencier des travailleurs est un crime social. Nous devrons imposer l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire le fait que les salaires augmentent au même rythme que tous les prix, pour ne pas voir, comme c'est le cas depuis maintenant des années, notre pouvoir d'achat baisser de mois en mois. Et puis, il faut imposer un contrôle sur les entreprises et un contrôle sur les fortunes des propriétaires. D'où vient leur argent ? Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas payer les cotisations sociales et qu'un travailleur coûte cher. Mais combien rapporte-t-il ? Imposer la transparence sur les comptes des entreprises permettrait de mettre au grand jour tout ce qui est volé, non seulement aux travailleurs au travers de l'exploitation, mais aussi tout ce qui est volé aux consommateurs. Mettre en lumière l'exploitation capitaliste serait un premier pas pour contester le pouvoir de la classe capitaliste. Un premier pas qui permettrait aux travailleurs de prendre conscience qu'ils doivent et qu'ils peuvent eux-mêmes décider. Oui, les travailleurs sont capables de s'organiser pour se défendre, mais ils sont aussi capables de contrôler collectivement l'économie et de la diriger. Et ils le feraient mille fois mieux que les capitalistes, parce que eux, ils ne seraient pas aveuglés par les profits. À l'échelle de toute l'économie, les travailleurs pourraient collectivement recenser les besoins d'un côté. De l'autre côté, ils pourraient recenser les ressources, les richesses et les moyens que nous avons de les produire. Et ils pourraient faire en sorte que tout cela se corresponde. Aujourd'hui, tout cela est rendu impossible, car entre les deux, entre les besoins et les moyens de les satisfaire, s'interpose la loi du profit, parce que s'interposent les capitalistes qui ne produisent que ce qui rapporte et rien que ce qui rapporte. Voilà pourquoi nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire, et voilà pourquoi il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Voilà pourquoi on peut faire circuler les connaissances et le savoir, et moins il y a d'éducation. Voilà pourquoi plus on a les moyens de soigner des maladies graves, plus on réussit aussi des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. Alors l'économie capitaliste n'est pas seulement une économie injuste, c'est aussi une organisation inégalitaire, c'est un immense gâchis, une organisation folle qui fait que l'on est en crise parce qu'on est capable de trop produire. On est en crise et toute la société produit trop de richesses. Il n'y a pas d'organisation économique plus aberrante et plus stupide. Il n'y a rien à garder dans cette économie capitaliste. Il faut une transformation profonde de la société qui ne peut se faire qu'en expropriant la bourgeoisie, qu'en réorganisant la production sur des bases collectives, en l'organisant le plus rationnellement et le plus démocratiquement possible dans l'intérêt de toute l'humanité. Cela s'appelle le communisme et nous en sommes convaincus, c'est l'avenir du monde. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur le Mali. Sarkozy avait eu sa guerre en Libye, Hollande à la sienne au Mali. L'un et l'autre n'ont pas hésité à défendre les intérêts impérialistes de la France. Car sous prétexte de faire la guerre aux terroristes, le gouvernement cherche à protéger les intérêts du grand capital dans la région, les intérêts de Total en Mauritanie, les intérêts aussi qu'on a dans le fer, qui est pillé en Mauritanie depuis de longues années, et puis surtout les intérêts d'Areva, qui exploite l'uranium au Niger voisin. Et l'exploitation de l'uranium du Niger n'a rien d'anecdotique, parce qu'il représente un tiers de la fourniture des centrales nucléaires. C'est cette exploitation qui assure la prétendue indépendance énergétique de la France. Et cette exploitation est par ailleurs en plein développement. Areva a annoncé qu'elle allait bientôt exploiter à plein régime la mine d'Imouraren et qu'il lui fallait pour cela assurer l'arrivée de 300 nouveaux ressortissants. Alors il est certain que ces intérêts-là seront bien gardés. Quant à la population malienne, elle n'a pas fini de payer cette intervention. Et même ceux qui ont applaudi à l'intervention de l'armée française. Parce que le soulagement risque d'être de courte durée. D'abord, rien ne dit que les mêmes bandes armées d'intégristes ne reviendront pas. En fait, ils se sont dispersés dans la nature ou ils sont cachés au sein même de la population. Et quoi qu'en dise Hollande, la guerre est loin, très loin d'être terminée. Et puis surtout, parce que l'armée française a livré la population malienne à l'armée malienne. Remettre le pouvoir à l'armée malienne, c'est remettre le pouvoir à une autre bande armée qui sait très bien racketter la population, mais qui ne l'a jamais protégée. Cette même armée qui a détalé sans demander son reste quand les djihadistes sont arrivés. En remettant en selle l'armée malienne, la France a donné le pouvoir à une bande armée qui va en profiter pour régler ses comptes et qui va se venger sur la population Touareg et sur la population arabe qui vit au Mali. On sait déjà qu'à Gao, cette armée a commis toute une série d'exactions. De vengeance en vengeance, les oppositions ethniques vont se renforcer. Le fossé de sang va se creuser, montant les communautés les unes contre les autres. Alors quel nouveau massacre se prépare avec la reconquête du Nord Mali par l'armée française et par les armées de pays africains dont aucune n'est réputée pour le respect des populations. Et c'est vrai, bien sûr, y compris de l'armée française. Que l'on se souvienne quand même du rôle de l'armée française lors du génocide au Rwanda en 1994. Alors il y a de quoi être horrifié par la terreur imposée par les islamistes, les mains coupées, les lapidations. Mais l'intervention de l'armée française va rendre la situation pire encore. Rappelons-nous la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan et plus récemment l'intervention en Libye. Toutes ces guerres se menaient prétendument pour la bonne cause, pour la démocratie, la protection des civils, la lutte contre le terrorisme, le droit des femmes. Mais le résultat, ce sont des destructions, un recul économique, des affrontements communautaires, religieux, ethniques, qui n'en finissent pas. Alors, oui, nous sommes opposés à cette guerre. Non seulement parce qu'il s'agit d'une guerre impérialiste qui est menée comme toutes les guerres coloniales pour piller les ressources d'un pays, mais aussi parce qu'en intervenant, les puissances impérialistes, et la France en l'occurrence, sèment des bombes à retardement. Des bombes à retardement dont personne ne mesure la portée. Il y aura toute une série de conséquences en chaîne que personne ne pourra maîtriser. L'intervention française n'est là que pour continuer à maintenir le même ordre injuste, le pillage, l'exploitation par la France et les puissances impérialistes qui maintient l'Afrique dans la misère. Et on peut être sûr qu'à terme, elle ne fera qu'aggraver la situation. Même sur le terrain du terrorisme et de l'intégrisme religieux. Parce que comme cela s'est passé en Irak, en Afghanistan ou en Libye, l'intervention de l'impérialisme fera naître plus de vocations de terroristes islamistes encore. Parce que c'est justement sur le terreau de la misère, de la rancœur contre l'impérialisme que se forment toutes ces bandes armées. Alors le mal en Afrique, la France l'a fait et elle continue de le faire. Faut-il rappeler que la présence militaire de la France dans une grande partie de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Tchad, La mise en coupe réglée par les trusts français va de pair avec le maintien de gouvernements et d'appareils d'État corrompus et dictatoriaux, plus soucieux de s'enrichir sur le dos de la population que de la défendre. Alors non, rien de bon ne peut sortir de cette guerre. Non à la guerre française au Mali, troupes françaises hors d'Afrique. Oui, il faut mettre fin aux inégalités, au sous-développement, aux guerres, à l'oppression et à son cortège d'arriération qui va du sexisme au racisme. Mais nous ne pourrons le faire qu'en luttant contre l'exploitation capitaliste, qu'en transformant la société de fond en comble afin qu'il n'y ait plus de privilèges et de privilégiés. Voilà, camarades, les perspectives des travailleurs, elles sont grandes, elles sont enthousiasmantes. À nous de les faire vivre parmi les travailleurs pour qu'elles deviennent réalité.